Radio Adventiste Bethany de Pétionville, la radio qui vous parle de Jésus.
Leçon 12, du 16 au 22 mars. Une louange sans fin. Sabbat après-midi. Étude de la semaine basée sur les textes suivants. Psaume 134, Ésaïe 42, des versets 10 à 12, Apocalypse 14, verset 3, Psaume 15, Psaume 101, des versets 1 à 3, Psaume 96, Apocalypse 14, des versets 6 à 12, Jean 4, les versets 23 et 24. Versets à mémoriser.
Je chanterai pour le Seigneur tant que je vivrai. Je chanterai pour mon Dieu tant que j'existerai.
Psaume 104, verset 33. À mesure que notre expérience de la grâce et de la puissance de Dieu augmente, nous sommes poussés à demander avec le psalmiste « Comment rendrai-je au Seigneur tous ses bienfaits envers moi ?» Psaume 116, verset 12. La réponse est incontournable en consacrant notre vie à être fidèle à Dieu. Dans les psaumes, Israël n'est pas qu'une nation, mais la grande assemblée. Psaume 22, les versets 23 et 26, version Semeur, et le psaume 135, verset 18. Cette expression révèle l'appel fondamental d'Israël à louer Dieu et à rendre témoignage de lui devant les autres nations, car le Seigneur veut que le monde entier se joigne à son peuple pour l'adorer. Le peuple du Seigneur est identifié aux justes, qui adore le Seigneur et dont l'espérance se trouve en lui et en son amour. Louer le Seigneur dans l'assemblée est perçu comme l'adoration idéale. Cela ne veut pas dire que la prière et la louange individuelle en Israël aient une signification secondaire. Au contraire, l'adoration individuelle nourrit l'adoration collective d'une louange renouvelée. Psaume 22, les versets 23 et 26. Et en retour, l'adoration individuelle développe son plein potentiel en lien étroit avec le groupe. La communauté de foi est également appelée « Conseil des justes », psaume 111, verset 1, dans la version Semeur. « Ceux qui sont intègres connaissent Dieu », psaume 36, verset 11, « et Dieu les connaît », psaume 37, verset 18. Cette donnée imprègne chaque aspect de leur existence. Étudiez la leçon de cette semaine pour le sabbat 23 mars. Dimanche, levez vos mains vers le sanctuaire. Si quelqu'un peut vous faire la lecture du psaume 134, quelle adoration est offerte ici? À quoi aboutit l'adoration du Seigneur? Le psaume 134 rappelle la bénédiction sacerdotale d'Aaron dans Nombre 6, des versets 24 à 26. Il y a aussi également psaume 67, verset 2, et met en avant la bénédiction comme étant le principe sous-jacent et l'aboutissement de la relation entre Dieu et Israël. Le peuple bénit Dieu dans le sanctuaire, et Dieu bénit son peuple depuis Sion. Les bénédictions s'étendent à toute vie, car le Seigneur est le Créateur du ciel et de la terre. Le fait que Sion soit mentionné comme étant le siège de bénédiction divine particulière souligne le lien d'alliance entre le Seigneur et son peuple. C'est au sein de l'alliance de grâce qu'Israël a ainsi le privilège de bénir le Seigneur et que Dieu le bénit. La lecture faite du psaume 18 au verset 2, du psaume 36 verset 2, du psaume 113 verset 1, du psaume 134 verset 1 et verset 2 et du psaume 135 verset 1 et 2 vous permet de poser cette question: comment les fidèles sont-ils décrits ici? Les psaumes décrivent souvent les fidèles comme les serviteurs du Seigneur. Qui vous tenait dans la maison du Seigneur pendant les nuits? Psaume 134 verset 1 fait certainement référence à la garde de nuit des Lévites, 1 Chronique 9, des versets 23-27, ou à la louange qui était offerte à Dieu par les Lévites, aussi bien le jour que la nuit, 1 Chronique 9, verset 33. Les Israélites adoraient le Dieu invisible qui ne pouvait être représenté sous forme d'aucune image. Le sanctuaire servait ainsi à refléter la gloire du Seigneur et à assurer un environnement sûr pour que des pécheurs puissent s'approcher de leur roi saint. Cette rencontre a été initiée par le Seigneur en personne et elle est régulée par ses statuts et ses décrets. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les humains, certes, mais choisie et précieuse aux yeux de Dieu. Vous-même, comme des pierres vivantes, construisez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels, agréés de Dieu par Jésus-Christ. 1 Pierre 2, les versets 4 et 5. Ce que l'on voit ici, dans les paroles de Pierre, est une expression néo-testamentaire des mêmes idées présentées dans ces psaumes, celles du peuple de Dieu, devenu saint sacerdoce, qui offre louange et action de grâce à leur Seigneur Jésus-Christ, leur Créateur et Rédempteur, pour toutes les bonnes choses qu'il a faites pour eux. Nous avons ainsi un rôle sacerdotal, en ceci que nous sommes appelés à servir de médiateurs entre la bonne nouvelle de l'Évangile et le monde. Quels sont les moyens les plus efficaces d'y parvenir? Lundi, chantez au Seigneur un chant nouveau. Après que quelqu'un vous ait fait la lecture des psaumes 33, verset 3, psaume 40, verset 4, psaume 96, verset 1, psaume 98, verset 1, psaume 144, verset 9 et psaume 149, verset 1, quel est le thème commun de ces textes? Les psaumes appellent les croyants à chanter un chant nouveau. Quel est ce chant nouveau ici? La raison de ce chant nouveau, c'est une prise de conscience renouvelée de la majesté du Seigneur et de sa souveraineté sur le monde, ainsi que la gratitude pour ses bons soins et son salut en tant que créateur et juge de la terre. La délivrance des ennemis et de la mort, ainsi que la faveur de Dieu envers Israël, voilà, entre autres, des raisons personnelles de chanter un chant nouveau. Tandis que les autres chants louent également le Seigneur pour son amour et ses merveilles, le chant nouveau est un chant spécial qui exprime une joie renouvelée et la promesse d'une dévotion nouvelle envers Dieu. L'expérience de la délivrance divine inspire le peuple à reconnaître le Seigneur comme son Créateur et Roi. Dans les psaumes, les thèmes communs qui parlent d'un chant nouveau sont la confiance en Dieu, la louange de ses œuvres merveilleuses, et la délivrance de l'affliction, entre autres. Après la lecture qu'on vous aura faite d'Ésaïe 42, des versets 10 à 12, d'Apocalypse 5, verset 9, et d'Apocalypse 14, verset 3, que peut-on déduire du chant nouveau d'après ces textes bibliques? Israël, le peuple de Dieu, est décrit en termes affectueux comme le peuple qui lui est proche, psaume 148, verset 14, ce qui implique que de toute la création, Israël a le statut le plus spécial. Il a donc le privilège et l'obligation de louer Dieu. La Bible encourage donc les croyants de toutes les générations à chanter le chant nouveau. En louant ainsi le Rédempteur, ils rendent leur témoignage unique sur le salut par le sang de l'agneau. Un chant nouveau peut décrire un chant que personne n'a jamais entendu, un chant qui commémore une expérience vivante de la grâce de Dieu dans notre vie. Le chant nouveau peut également exprimer l'espoir, auquel cas la nouveauté du chant est démontrée dans l'anticipation d'une expérience unique et sans précédent, celle de la manifestation à venir de la majesté de Dieu. La véritable adoration va au-delà des sacrifices et des offrandes. Elle est le reflet d'une relation vivante avec Dieu, toujours nouvelle et dynamique. En un sens, elle pourrait simplement dire que le chant nouveau est une nouvelle expression, chaque jour, de notre amour pour Dieu et de notre appréciation de ce qu'il a fait pour nous. Méditez sur les bénédictions de Dieu dans votre vie. Si vous deviez chanter un chant nouveau, à quoi ressemblerait-il? Mardi. Éternel, qui séjournera dans ton tabernacle? Après qu'une personne vous ait lu le psaume 15, qui sont les gens dignes d'adorer dans la présence de Dieu? La réponse donnée dans ce psaume est le résumé des conditions déjà données dans la loi de Dieu et les prophètes. Ceux dont les actes, qui pratiquent la justice, et le caractère de tout cœur. Voir Deutéronome 6, verset 5 et Michée 6, des versets 6 à 8, sont un reflet de Dieu. Le sanctuaire était un lieu sacré, et tout ce qui s'y trouvait, y compris les prêtres, était consacré. Ainsi, la sainteté est une condition obligatoire pour entrer dans la présence de Dieu. La sainteté d'Israël devait être totale, unir l'adoration à la morale et s'exercer dans tous les aspects de la vie. La loi fut donnée au peuple de Dieu pour leur permettre d'accomplir tout leur potentiel, c'est-à-dire de vivre comme un royaume de prêtres. Le sacerdoce royal comporte une vie de sainteté dans la présence de Dieu et le partage des bénédictions de l'Alliance avec les autres nations. Après la lecture qu'on vous a faite du psaume 24, des versets 3 à 6, et du psaume 101, des versets 1 à 3, que signifie être saint? Un cœur net est la plus grande qualité devant Dieu. Le terme hébreu « tamim », qui signifie « parfait », traduit l'idée de plénitude et de bonne santé. Une vigne parfaite et complète, non endommagée et en bonne santé. Ézéchiel 15, verset 5. Les animaux offerts en sacrifice devaient être « tamim » ou « sans tache ». Lévitique 22, des versets 21 à 24. Un discours parfait est entièrement véridique. Job 36, verset 4. Un cœur net est donc un cœur pur. Psaume 24, verset 4. Ou intègre. Psaume 15, verset 2. Il cherche Dieu. Psaume 24, verset 6. Et il est restauré par le pardon de Dieu. Psaume 51, des versets 4 à 12. Une vie irréprochable découle de la reconnaissance de la grâce de Dieu et de sa justice. La grâce divine inspire les serviteurs de Dieu et leur permet de vivre dans la crainte du Seigneur, ce qui signifie vivre dans une communion sans entrave avec Dieu et en soumission à sa parole. Un témoignage d'une vie pieuse et consacrée donne gloire à Dieu et non à soi-même. Remarquez que la plupart des conditions du psaume 15 sont données en termes négatifs. Psaume 15, versets 3 à 5. Il ne s'agit pas de gagner la faveur de Dieu, mais d'éviter les choses qui nous sépareraient de lui. Comment prendre des décisions conscientes pour éviter ce qui nous éloigne de Dieu? Quelles sont ces choses et comment éviter de les faire? Mercredi, raconter sa gloire parmi les nations. Après une écoute du psaume 96, quels aspects variés de l'adoration sont mentionnés dans ce psaume? L'adoration, c'est chanter au Seigneur. Psaume 96, versets 1 et 2. Louer son nom. Psaume 96, verset 2. Proclamer sa bonté et sa grandeur. Psaume 96, versets 3 et 4. Et apporter des dons à son temple. Psaume 96, verset 8. En plus de ces aspects familiers de l'adoration, le psaume 96 en souligne un autre, pas si évident, c'est-à-dire la dimension évangélique, la proclamation du royaume du Seigneur aux autres peuples. Psaume 96, les versets 2, 3 et 10. Mais le chant, la louange, le fait d'apporter des dons et la proclamation de l'évangile ne sont pas des actions séparées. Ce sont différentes expressions de l'adoration. La proclamation du salut de Dieu à toutes les nations donne de la substance à la louange et du contenu à l'adoration. Remarquez comme les raisons d'adorer coïncident avec le message proclamé aux autres peuples. Car le Seigneur est grand. Psaume 96, verset 4. Car tous les dieux des peuples sont des faux dieux, mais c'est le Seigneur, Yahvé, qui a fait le ciel. Psaume 96, verset 5. L'Éternel règne. Psaume 96, verset 10, version Colombe, et il vient pour juger la terre. Psaume 96, verset 13. Le but de l'évangélisation est donc d'unir les autres peuples au peuple de Dieu, et en définitive à toute la création dans l'adoration du Seigneur. Psaume 96, des versets 11 à 13. L'adoration découle de la reconnaissance intérieure de qui est le Seigneur, c'est-à-dire le Créateur, le Roi, et le juge. Psaume 96, verset 5, les versets 10 et 13. L'adoration implique donc de se souvenir des actes passés de Dieu, la création, de célébrer ses merveilles présentes, le fait qu'il soutienne le monde et son règne actuel, et d'anticiper ses actions à venir, le jugement eschatologique et la nouvelle vie dans de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Dans les psaumes, le jugement signifie la restauration de l'ordre divin, un ordre de paix, de justice et de bien-être dans un monde pour le moment tourmenté par le poids de l'injustice et de la souffrance. Toute la terre se réjouit ainsi dans l'attente des jugements de Dieu. Psaume 96, des versets 10 à 13, psaume 98, des versets 4 à 9. Le fait que le Seigneur est un juste juge devrait aussi motiver les gens à l'adorer en sainteté et à trembler. Cela devrait aussi les mettre en garde contre le risque de prendre l'adoration à la légère. Psaume 96, verset 9. L'adoration implique une joie et une confiance immense d'une part. Psaume 96, versets 1 et 2, et des versets 11 à 13. Et d'autre part, une crainte et un émerveillement saint. Psaume 96, les versets 4 et 9. L'appel universel du psaume 96 à adorer le Créateur et Juge se reflète dans la proclamation évangélique finale de Dieu pour le monde. Les messages des trois anges d'Apocalypse 14, les versets 6 à 12. Sur de nombreux plans, ce psaume semble intégrer ce message pour la fin des temps. Création, salut, évangile éternel, adoration et jugement. Tout est là. Comparez ce psaume avec les messages des trois anges d'Apocalypse 14, des versets 6 à 12. En quoi enseigne-t-il les mêmes vérités fondamentales que ce message que nous devons proclamer au monde en cette fin des temps? Je dis, quand Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice. Après la lecture qu'on vous aura faite du psaume 40, des versets 7 à 9, du psaume 50, des versets 7 à 23, et du psaume 51, des versets 17 à 21, quelle question importante ces textes soulèvent-ils? Pourquoi Dieu ne prend-il pas plaisir au sacrifice qu'il a prescrit dans sa parole? Exode 20, verset 24. À l'instar des prophètes, les psalmistes dénoncent différents abus liés à l'adoration. Leur réflexion principale dans ces versets ne porte pas sur l'aversion du Seigneur pour les sacrifices et les fêtes d'Israël, mais sur les raisons de sa répugnance, la dangereuse distance entre l'adoration et la spiritualité. Dieu ne réprimande pas ses enfants pour leurs sacrifices et leurs holocaustes, mais pour leur méchanceté et les actes d'injustice qu'ils ont commis dans leur vie personnelle. Psaume 50, versets 8 et 17 à 21. Les psaumes ne prêchent pas contre les sacrifices et l'adoration, mais contre les vains sacrifices et la vaine adoration que manifeste l'injustice de ses croyants. Quand il y a un décalage entre l'expression extérieure de l'adoration et la motivation intérieure pour l'adoration, les rituels deviennent généralement plus importants en soi que l'expérience réelle d'une proximité avec Dieu. Autrement dit, les formes d'adoration deviennent une fin en soi et ne révèlent plus le Dieu auquel ces rituels sont censés renvoyer. Après la lecture qu'on vous aura faite de Jean 4, les versets 23 et 24, que dit Jésus ici qui correspond exactement à ce que dénoncent les psaumes étudiés aujourd'hui? Les sacrifices seuls ne suffisent pas. À quoi serviraient-ils si le cœur de ceux qui les offraient n'était pas rempli de repentance, de foi et de chagrin pour le péché? Ce n'est que quand ils étaient accompagnés de repentance et d'actions de grâce que les sacrifices de taureaux plaisaient à Dieu en tant que sacrifice de justice. Psaume 51, verset 21, et également psaume 50, verset 14. Jésus, citant Ésaïe, l'a exprimé de la manière suivante. « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. » Matthieu 15, verset 8. Le problème que les psalmistes voyaient ici était les mêmes problèmes que Jésus rencontra avec certains, notamment les dirigeants lors de son ministère terrestre. En tant qu'adventistes, nous avons reçu beaucoup de lumière et de connaissances. Comment ne pas tomber dans le piège qui consisterait à croire que la simple connaissance de la vérité et l'accomplissement de rituels sont suffisants? Vendredi, pour aller plus loin. Demandez à quelqu'un de vous lire le texte d'Ellen White, How to Pray, pages 39 à 42 dans A Call to Stand Apart. Le besoin de repentance, de la véritable repentance, était central dans l'adoration.
La repentance comprend la douleur d'avoir commis le péché et le délaissement de celui-ci. Impossible d'abandonner le péché avant d'en avoir vu la gravité. Point de vrai changement de vie jusqu'à ce que l'on se soit détourné du péché de tout son cœur. Ils sont nombreux ceux qui ne comprennent pas la véritable nature de la repentance. Beaucoup de personnes gémissent sur leur péché et se réforment même extérieurement, parce qu'elles craignent les conséquences de leurs mauvaises actions. Ce n'est pas là la repentance dans le sens biblique du terme. C'est redouter la souffrance plutôt que le péché lui-même. Telle fut la douleur d'Ésaü quand il vit qu'il avait perdu à tout jamais son droit d'aînesse. Balaam, terrifié par l'apparition sur son chemin d'un ange armé d'une épée nue, confessa son péché dans la crainte de perdre la vie. Mais il n'y avait pas en lui de repentance véritable, pas de changement de disposition, pas d'horreur du mal. Judas Iscariote, après avoir trahi son Seigneur, s'écria « J'ai péché en livrant le sang innocent. »
Ellen White, Le meilleur chemin, page 21.
Mais bien que le Seigneur n'habite pas dans les temples faits de mains d'hommes, il honore de sa présence les assemblées de son peuple. Il a promis d'être au milieu des siens par son esprit chaque fois qu'ils viendraient lui confesser leurs péchés et prier les uns pour les autres. Toutefois, eux qui s'assemblent pour l'adorer doivent abandonner tout mauvais sentiment. S'ils ne l'adorent pas en esprit et en vérité, leur assemblée est sans valeur. Le Seigneur a déclaré à ce sujet « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. »
Ellen White, Prophètes et Rois, page 33. À méditer. Quelle est la plus grande offrande que le fidèle puisse faire à Dieu? Psaume 40, versets 7 à 11. Romains 12, versets 1 et 2. Quel est le lien entre l'adoration individuelle et collective? Pourquoi avons-nous besoin des deux? De quelle manière chacune améliore-t-elle l'autre? Beaucoup de gens comprennent l'adoration comme se limitant à la prière, au chant de cantiques et à l'étude de la Bible et de textes spirituels. Ces activités sont certes essentielles, mais l'adoration se limite-t-elle à cela? Donnez des exemples d'autres formes d'adoration. Ellen White a écrit
« Ne considérons jamais son service comme un labeur déprimant et angoissant. Adorer le Seigneur et travailler à son œuvre devrait être pour nous un plaisir. »
Le meilleur chemin, page 101. En quoi l'adoration du Seigneur peut-elle devenir un plaisir?
D'autres émissions aussi intéressantes sont aussi disponibles sur notre site, radioadventistebethanie.com, et aussi sur toutes les plateformes de podcasts.